Arcade, whisky, costard, Toshiro Nagoshi, le mauvais garçon de Sega. C'est ainsi qu'est titré un excellent article premium chez GameCult, un article signé Victor Moisan. Alors bien sûr, comme toujours avec les articles premium, je ne vais pas vous résumer tout ce qui est dit, juste vous résumer grosso merdo ce qu'il y a dans le premier tiers. C'est passionnant. Alors, qui est Toshiro Nagoshi? Ben, c'est le papa notamment de la saga Yakuza, mais pas que. Mais ce dossier est en ligne puisque le sixième volet des aventures de Kazuma Kiryu vient de débouler en Europe. Vous savez, Yakuza, c'est une série vraiment qui m'est très chère, que j'aime beaucoup, que je défends depuis le premier numéro. Et heureusement, depuis quelques temps, ça commence à prendre un petit peu en Europe, heureusement, enfin en Occident, tout du moins. Et donc, ce dossier sur GameCult revient sur la carrière de Toshiro Nagoshi, qui est, donc Dixit, GameCult, une figure essentielle de Sega, dont il est à la fois le mauvais garçon et le plus fidèle historien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au début de ce papier? Eh bien, que Toshiro Nagoshi est né en 1965 dans la petite ville de Shimonoseki, et il est issu, selon ses dires, je le cite, d'une famille de vendeurs de poissons qui ne s'intéresse pas aux technologies. Alors, le jeune Toshiro trouve refuge dans les salles de cinéma et les films des années 70 particulièrement influenceront son œuvre et plus particulièrement, bien sûr vous vous en doutez, la saga Yakuza. On apprend que donc Monsieur Nagoshi monte à Tokyo, étant jeune homme, pour étudier le cinéma et il obtient un diplôme à l'université des arts et du design. Peu de temps après, il est embauché par Sega. L'industrie, nous dit-on, est alors avide de talents capables de brouiller la frontière entre jeu et 7e art. Nagoshi entre chez le géant du jeu vidéo en tant qu'illustrateur, chargé de l'apparence des personnages, des décors et des effets, mais fait très vite parler de lui lors d'une réunion mémorable. En effet, en pleine réflexion sur le démo mode d'un titre d'arcade, les pontes du département se font couper la parole par un jeune homme un peu présomptueux, dont les idées font mouche tant elles condensent avec force et simplicité l'essence du jeu qu'ils essayent tant bien que mal de présenter. Le grand patron le félicite et lui demande où il a appris le marketing. « Je ne sais rien des enjeux du marketing, mais il m'a semblé que ce dont nous discutions était très proche de ce que j'ai étudié à propos du cinéma », lui répond le jeune homme. On lui confie alors la responsabilité de séquences animées qu'on n'appelle pas encore séquences cinématiques. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Monsieur Nagoshi débute sa carrière aux côtés du grand Yu Suzuki au sein du mythique studio AM2. Yu Suzuki, alors que je ne représente pas, quand même, papa de Virtua Fighter, d'Outrun, d'Angon, bref, j'en passe et des meilleurs. Donc Yu Suzuki transmet à Nagoshi une certaine conception du cool, nous dit-on, façon Sega, mélange de vitesse associé au fun, aux couleurs flashy et à la fluidité du gameplay arcade, autant de qualités qu'on retrouve dans le premier titre de Nagoshi en tant que planeur, Daytona USA, ce jeu de caisse complètement dingo qui était sorti en 1994, et qui d'ailleurs est un large succès international. Je rappelle que le jeu est développé sur la célèbre carte Model 2 et c'est une prouesse technologique tournant à 60 images par seconde. Alors pour concevoir les circuits, Nagoshi, nous dit le papier de GameCult, ce chronomètre, tour après tour, note le nombre de fois qu'il vira gauche ou à droite, ainsi que le temps passé à incliner le volant. Il invente de cette manière une philosophie du jeu de course qu'il rapproche de l'écriture musicale, en ce que chaque tour de piste est réglé selon une science de la partition et du groove. On retrouve cette même priorité donnée à la sensation sur un registre plus musclé certes, mais qui servira à l'élaboration des bastons du rue de Yakuza dans le beat'em up Spike Out, sorti en 1998, l'un des titres emblématiques du travail de Nagoshi au sein d'AM2. D'ailleurs, Spike Out, tout comme Scud Race, que j'ai attendu tant d'années sur Dreamcast à l'époque, mais ceci est un autre débat. Porté à l'orée du nouveau millénaire, nous dit-on, Toshiro Nagoshi éprouve le désir de s'affranchir de l'arcade et prend la tête d'Amusement Vision, donc ex-studio AM4, entité formée en même temps que de nombreux studios qui restent dans le giron de Sega, mais qui possèdent, et là c'est important, une organisation beaucoup plus autonome qu'auparavant. Pour briser l'apathie propre aux structures japonaises, il se met à l'écoute de ses employés, leur accorde du repos quand ils traversent des phases difficiles et s'emploie à tirer profit de leur créativité individuelle en bousculant les procédures habituel de prise de décision. Et oui, Nagoshi à l'époque, et ça même moi je ne le savais pas, pourtant je connais un peu la carrière du bonhomme, hein, étant fan de Yakuza, je ne pensais pas que son côté rebelle se manifestait déjà comme ça à l'époque. Et donc le papier nous explique que c'est dans cet état d'esprit qu'est conçu Super Monkey Ball, hein, en 2001, un party game où l'on dirige une boule avec un singe à l'intérieur à travers un parcours d'obstacles selon un concept proche du mini-golf. C'est un jeu qui a marqué beaucoup de monde, hein. Moi notamment je l'avais sur GameCube. Donc ce titre est réalisé en deux temps, donc nous dit-on d'abord en arcade, puis effectivement sur console GameCube. Nagoshi, très très humble, hein, s'est contenté finalement, nous dit-il, d'écouter son équipe en sélectionnant les meilleures idées. Il déclare plus précisément, je le cite, « Rouler, voilà mon idée principale. Je voulais que ce soit facile à diriger, qu'il y ait une boule transparente avec un personnage dedans. La conception des niveaux, les mécaniques et tous les trucs, tout est l'invention des level designers, pas de moi. Le plaisir physique qu'on éprouve à faire rouler la boule ainsi que tous les mini-jeux proviennent de mes programmeurs, tout comme le mode multijoueur à 4. Je n'ai fait que décider de ce qui serait conservé dans la version finale du jeu. » Et je trouve ça vraiment tout à l'honneur de Monsieur Nagoshi de ne pas s'approprier le succès de Super Monkey Ball. Et donc on nous dit, et j'arrêterai là, hein, là c'est à peu près à la moitié, même pas à la moitié complètement, hein, du dossier, sachant que là j'ai déjà évincé pas mal de passages, on nous dit donc qu'avec Super Monkey Ball, hein, Monsieur Nagoshi entame une période où il se défait quelque peu de l'esprit Sega pour, avec un plaisir non dissimulé, se rapprocher du grand rival Nintendo. Donc la suite de ce dossier passionnant à plus d'un titre est à lire sur GameCult. Essayez de gratter un petit code, hein, de lecture, un petit code premium auprès de vos contacts. Bon, si vous faites la demande sur Twitter, hein, ou sur Facebook en général, ça s'obtient très très facilement. Et pourquoi pas de vous abonner à l'excellent premium de GameCult. On ne le répétera jamais assez. Voilà, moi ça me fait super plaisir ce dossier, puisque vous imaginez bien que la partie qui m'intéresse le plus, c'est la partie sur la genèse de Yakuza. Alors, je connaissais déjà pas mal de choses, pour avoir même écrit à l'époque, hein, dans IG Mag, pardon, sur le monsieur et sur la série Yakuza, mais là, on apprend encore de nouvelles choses, et c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal d'interviews qui ont été données, dont des extraits savoureux sont compilés dans ce super papier. Donc voilà, c'est à lire d'urgence sur Game Cult.